donc on parlait de médecine du travail, la voilà.
La voilà.
Voilà, donc Pierre Guinet qui est médecin du travail et Claire Lelevé qui est assistante sociale et vont eux aussi du coup partager leur point de vue.
Vous allez voir, très en phase.
Je vais commencer tout de suite parce que nous sommes déjà en retard. Je voulais déjà commencer par remercier Véronique Chaberneau parce que c'est pour les médecins du travail, c'est quand même une chance de pouvoir parler à autant de responsables de DRH. Et bon, c'est vrai que bon, pour les entreprises les plus importantes, hein, vous êtes nos interlocuteurs quand même très privilégiés. Donc on a forcément des choses à se dire. Ceci dit, 80% quand même des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, ce qui est la proportion des entreprises que la CMS, le service de santé au travail où on est en Île-de-France, suit. Et donc là, je dirais, le RH est habituellement le patron. Il fait tout, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas forcément toutes les compétences que vous avez. Et c'est vrai que nous essayons d'apporter aussi des conseils, en fait, même quelquefois, qui ne sont pas strictement de la santé au travail. Alors, le plan, il est long, mais on va faire bien. Bon, je vais vous brosser un petit peu la santé au travail et puis le positionnement, je dirais rapidement, du service auquel j'appartiens. On parlera aussi de ce qui tourne autour de l'évaluation des risques, parce que dans la santé au travail, vous avez au fond la santé en termes de risques professionnels, c'est ce qui nous occupe, mais il y a aussi la santé entre guillemets tout court, et l'un et l'autre en fait sont très étroitement liés en réalité, et quand tous les médecins du travail qui regardent tous les salariés en fait qu'ils voient, au fond on fait forcément une globalisation en fait de cet état-là, et en particulier pour nos avis d'aptitude, il y a très habituellement une association en fait entre l'état de santé entre guillemets lié au travail et puis l'état de santé tout court lié au salarié. Et puis on va aborder un certain nombre de thèmes. Madame Lelevé, qui est assistante sociale, qui est à côté de moi, vous traitera donc spécifiquement pour les arrêts de travail et puis les seniors, et puis on aura deux voies pour le maintien dans l'emploi. Alors d'abord, le chef d'entreprise, depuis 2002, il a une responsabilité majeure et en particulier maintenant, il a une obligation de résultat. Et ce qui n'était pas son cas avant, puisqu'avant, il avait une obligation de moyens. Et donc le résultat, ça lui impose une charge et des responsabilités qui sont quand même très grandes. Quand on parle de risque en fait dans l'entreprise, c'est la conjonction, l'association du danger et puis d'un humain. Et donc l'employeur, il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer donc la sécurité, la santé physique et mentale des salariés. C'est-à-dire, en fait, c'est une charge extrêmement importante. Surtout quand on parle de risques, en fait, qui sont à effet différé. Et il y a des questions en particulier autour des CMR actuellement qui posent quand même de très graves problèmes en termes de responsabilité. Alors, les services de santé au travail, en regard de ça, ils ont une obligation de visite médicale. C'est ce que tout le monde connaît. On a également, depuis d'ailleurs assez longtemps, une obligation d'intervention en entreprise. Et les derniers décrets de 2004 ont bien rappelé que c'était la prévention primaire qui était la mission essentielle des médecins du travail. La prévention primaire, c'est l'intervention au niveau des postes de travail. Et puis dans ces décrets-là, il y avait en fait une sorte de rappel, mais de la nécessité que les services de santé au travail en fait se structurent d'une façon pluridisciplinaire. Il y avait une multitude de motivations pour éventuellement. Alors on va citer en fait donc la CMS. C'est une association ancienne qui date de 1945. C'est une association qui a la grande particularité parce que depuis le début en fait elle a organisé un système en fait médico-social. Ça veut dire que dans nos centres depuis 1945 il y avait donc des médecins du travail et des assistantes sociales. Donc nous avons un petit peu l'habitude de travailler ensemble. Donc la CMS, il y a une compétence sur l'ensemble de l'Île-de-France. Nous sommes, je le dis à petite voix, mais le plus grand service de santé au travail de France, puisqu'on suit dans l'Île-de-France environ 1 million de salariés. Nous sommes aussi une entreprise assez importante puisque nous avons 1000 salariés, 355 médecins, 53 responsables administratifs, assistantes sociales et puis plein de gens. Bah, le médecin du travail, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est un médecin spécialiste normalement. Son rôle consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et il a une action en fait en termes de conseil auprès de l'employeur, des salariés, mais aussi des instances représentatives et des services sociaux. Et puis donc, son rôle principal, c'est vraiment la prévention primaire. Le service social à côté de nous, je vous ai donné ça pour que vous ayez une idée au fond de ce qui est fait par les assistantes sociales. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que 25% des interventions de nos assistantes sociales concernent en fait soit des problématiques d'inaptitude, soit des problématiques de handicap. Donc je vous résume brièvement les courses, on tourne autour du maintien dans l'emploi. Et puis nous avons un pôle d'intervenants en risque professionnel, donc c'est un pôle qui actuellement est en augmentation en termes d'effectifs constants. Alors, pour l'entreprise, les risques professionnels, au fond, ça va se matérialiser par la rédaction d'un document unique. Alors, ce fameux document unique, il doit identifier, évaluer et classer les risques. Et en fait, ce qui est tout à fait important, c'est que le chef d'entreprise, il engage sa responsabilité parce qu'il doit le signer. Et puis, il est donc obligatoire pour toutes les entreprises, donc à partir d'un salarié, donc ça fait beaucoup de monde. Il doit être mis à jour annuellement ou lorsqu'il y a des modifications importantes. Hein. Et surtout, en fait, ce qui est tout à fait essentiel, c'est la finalité. Et quand on regarde la jurisprudence en matière de documents uniques, ce n'est pas le catalogue des risques de l'entreprise qui importe, c'est vraiment le plan annuel de prévention des risques professionnels. Donc ça, il faut absolument faire ça. Donc il y a un calendrier, il y a des ressources qu'on doit établir, il y a des objectifs à atteindre et les résultats qu'on doit avoir et pouvoir montrer. Alors les services de santé au travail, ben, c'est quand même très vrai, mais on est là pour vous aider. Réduire, on peut même quelquefois vous aider à supprimer des risques, c'est extraordinaire. Quelquefois pour les plus petits employeurs, on va dire, c'est de leur rappeler la réglementation, parce qu'ils ne peuvent pas savoir, ou ils ne savent pas, ou ils minimisent. Ce qui nous importerait, en fait, c'est de vraiment diffuser la prévention au sein des entreprises, parce que c'est clair que nous sommes des intervenants, sauf pour les services autonomes, mais quand même extérieurs. Du fait de notre évolution, on en parlera à la fin, mais on ne va pas être sur les postes de travail tous les jours. Et donc, c'est clairement, en fait, aux entreprises, bon, qui peuvent être aidées, bien évidemment, mais de promouvoir, en fait, cette culture de prévention. Alors, on va rappeler un petit peu les risques psychosociaux. On a pris des thèmes qui étaient d'actualité. Alors, très rapidement, parce que ça a été traité par ailleurs et très bien. Donc un salarié européen sur quatre hein, déclare souffrir de troubles de santé liés au stress au travail. Donc, c'est vraiment une réalité, d'ailleurs, mondiale. Hein, toutes les études internationales montrent la même chose. Et j'aime bien la définition ensuite, c'est que on montre bien que c'est un déséquilibre entre une perception, en fait, de son environnement de travail et la perception que l'on a en fond de ses propres ressources. Et ça montre bien, d'une certaine façon, l'individualité des réactions. Et puis soi-même, au fond, on imagine bien qu'on ne va peut-être pas être dans cette situation de travail pendant 20 ans. Et puis même, il y a des personnes qui sont encore plus fluctuantes parce qu'elles sont éventuellement malades ou perturbées et qui vont être capables de fluctuer, en fait, d'un moment à l'autre. Et donc, dans un même service qui est soumis au fond à des entre guillemets de mêmes conditions de travail, on va avoir des plaintes en fond assez disparates. Mais c'est lié à la perception en fait individuelle des choses. Alors, les risques psychosociaux, donc ça relève de. On parle de différentes choses, hein, donc le mal-être, la souffrance, le stress, on ne sait pas trop bien ce qu'on doit mettre dedans. Les violences, là déjà, c'est un petit peu plus facilement identifié. Et puis le harcèlement, qui est la seule chose qui a été vraiment, entre guillemets, réglementée. Mais qui, enfin, c'est, entre guillemets, un cas particulier et qui n'est comme, heureusement, pas si fréquent que ça. Le stress, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on peut prendre en charge en fait ces problématiques sur le plan individuel. Et puis, on peut, c'est mieux, le prendre en charge sur un plan collectif. Et là, c'est absolument évident, mais les ressources humaines ont un rôle majeur parce qu'habituellement, c'est elles qui vont. Ces ressources humaines, elles vont, je dirais, inciter, convaincre quand même l'employeur, sauf si ça vient de très haut. Mais souvent, il faut quand même convaincre. Et puis, elles vont animer et entretenir, en fait, ce système. Alors, les services de santé au travail, en parallèle, en fait, puisqu'on est les médecins du travail, je vais vous dire, les questions qui tournent autour du stress ou du harcèlement, pratiquement, il n'y a pas actuellement une consultation où on n'a pas une discussion de ce type, pratiquement. Donc, c'est extrêmement fréquent. Donc, les services, ben, ils se structurent. Eh ben, ils font appel à ce qu'ils ont déjà, ça veut dire les médecins du travail. Ce que certains ont la chance, c'est des assistantes sociales. On peut aussi faire intervenir des IPRP parce qu'on peut avoir des stress qui sont liés à des conditions physiques en fait, de travail, hein, des ateliers bruyants. Voilà. On peut faire des analyses ergonomiques de choses. On peut trouver tout à fait des solutions très pragmatiques et utiles. Et puis on a également des psychosociologues donc, qui peuvent intervenir vraiment sur la dimension psychosociale en fait, de ces phénomènes. Je vais laisser la parole à Madame Lelevé pour les arrêts de travail.
Oui. Bonjour, je suis assistante sociale inter-entreprise depuis près de 25 ans à la CMS. Je travaille essentiellement sur le Val-de-Marne, Paris. Comme le docteur Guinel disait, c'est une longue expérience de la CMS de mettre à disposition de ses adhérents du service social. Ce service social va se développer de plus en plus puisqu'il y aura de moins en moins de médecins du travail. Donc, il va falloir développer la pluridisciplinarité. Donc, le service social est bien placé. J'ai entendu dans ce que vous notiez que vous faisiez appel à l'assistante sociale lorsque un besoin se faisait sentir. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à travailler différemment avec les entreprises. Il faut qu'on aille vraiment sur le terrain de l'entreprise et il faut que les services sociaux inter-entreprises soient associés à la prévention des risques dans l'entreprise. Je peux vous donner des centaines d'exemples. Hein. J'ai 25 ans d'activité en inter-entreprise, j'ai des centaines d'exemples où on n'a pas bien fait le travail parce qu'on nous a appelés trop tard, on nous a envoyé une personne. Alors, le cas typique des arrêts de travail, eh bien, on a vu la personne au moment de la reprise, alors que tout le vrai travail il doit se faire en amont. C'est pendant un arrêt de travail qu'on prépare la reprise. Et la bonne reprise va être celle qui va sûrement être préparée pendant l'arrêt. Alors, je sais bien que suspension de contrat de travail, ça bloque un peu les entreprises. On ne peut pas faire n'importe quoi, respect de la personne, respect... Mais il y a des circuits qu'on peut utiliser, mettre en place pour préparer cette reprise, pour préparer une formation qui va permettre, en cas d'inaptitude au poste, en anticipant la question, de déboucher sur un maintien dans l'emploi. Hein. C'est toujours nos questions, c'est les arrêts de travail, les suspensions d'arrêt de travail, la reprise, le maintien dans l'emploi. Et je vous parlerai plus précisément, si vous voulez, des cas particuliers, des longs arrêts, des arrêts accidents de travail et maladies professionnelles, des handicapés, des seniors. On est là dans la panoplie des difficultés de l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire on a envie et besoin de travailler en concertation avec les entreprises. On n'est pas simplement l'assistante sociale satellite. Ça, on sait faire. Hein. Ça, je sais faire ça très bien. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne réglera pas vos problèmes. Les problèmes des salariés, ce n'est pas cela. Les problèmes, c'est ce qui se passe en lien avec leur entreprise. Alors, par exemple, les arrêts accidents du travail, les longs arrêts, ça a un coût énorme pour l'entreprise. Ça a un coût énorme pour le salarié. Donc, bon, les coûts directs et indirects, vous les connaissez mieux que moi. Bien sûr qu'il faut réduire tous ces coûts-là en réduisant les accidents du travail, ça vous le savez. Mais pour les salariés, ça représente souvent des pertes importantes de rémunération, alors que vous pensez système de prévoyance. Mais en fait, la prévoyance et même la réglementation récente sur les maintiens de salaire, là, les textes ils sont sortis avant l'été, laisse des trous, c'est-à-dire un salarié victime d'un accident de travail alors qu'il a moins d'un an d'ancienneté, eh ben, il n'est pas couvert par ce maintien de salaire. S'il n'y a pas subrogation, il va y avoir des décalages dans la rémunération des salariés. Et là, vous avez un rôle, vous, les RH, c'est de mettre en place une prévention de la désinsertion sociale et professionnelle. On parlait beaucoup du risque social. pour moi, c'est associé. Hein. Risque professionnel est associé au risque social. Ça je ne vois pas comment on peut raisonner autrement. Je voulais aussi parler des séquelles datées, des graves séquelles datées qui vont impacter l'évolution du salarié. Je peux vous raconter l'histoire d'une jeune femme, deux cancers professionnels. Elle est en reprise de travail en mai et rien n'est préparé pour sa reprise, alors qu'elle fait partie d'un labo, qu'il y a de la prévoyance derrière. Il y a une loi qui est passée en décembre, disant qu'on va pouvoir faire de la formation sur un arrêt de travail. Formation sur un arrêt de travail, alors que jusqu'à présent, c'était antinomique, on n'y arrivait jamais. Donc, les pouvoirs publics évoluent, la sécurité sociale évolue, les entreprises évoluent. Donc, on a envie de travailler avec vous. Voilà ce qu'on veut dire. On est capable de le faire. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a parlé maintien dans l'emploi.
Alors, maintien dans l'emploi. On est parti.
Le grand thème, hein, parce que vous êtes sollicité, vous, en tant qu'entreprise, par les pouvoirs publics pour garder vos salariés, les salariés âgés, les salariés handicapés. Donc, nous sommes un des premiers acteurs du repérage et nous voulons insister sur la nécessité absolue d'organiser les visites de pré-reprise. Vous en connaissez les principes, je pense, hein, vous avez ça. Mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler en amont et qu'on marque très nettement la volonté de trouver des solutions. Et souvent, c'est un problème parce qu'on a traité les rentrées et le maintien dans l'emploi, dans l'entreprise, les retours d'arrêt, hein, comme très souvent des sorties d'entreprise. Et nous, on a été peut-être des acteurs passifs, hein, on a laissé faire, peut-être un peu trop souvent, mais maintenant, ça y est, on est sortis de cette type d'approche. Donc non, il faut qu'on travaille sur les maintiens dans l'emploi. La loi sur les handicapés, si vous voulez qu'on en parle. Il y a énormément de législation derrière. Il y a souvent des empilements de législation et il faut relire tout ça autour d'une table au sujet d'un salarié et de tous les moyens qui sont à votre disposition. Nous, on a un réseau faramineux, hein, les assistantes sociales, assistantes souvent, hein, du travail. On a un réseau. La CNAM, la CRAMIF, la GFIP, les SAMET, je peux vous en sortir énormément des sigles comme ça, mais derrière ça, ça représente des gens qui sont capables de travailler ensemble.
Et pour le maintien dans l'emploi, il y a vraiment un enjeu de l'État, parce que l'État a fait bouger très récemment la GFIP, qui va reprendre en main les SAMET, parce que les SAMET, donc, ce sont les services d'aide au maintien dans l'emploi qui sont grosso modo organisés d'une façon départementale. Et comme les résultats en fait des SAMET ne sont pas excellents et qu'on dépense quand même beaucoup d'argent pour ça, donc la GFIP va reprendre la main sur un certain nombre de choses et vraiment demander vraiment aux SAMET d'agir vraiment sur le maintien dans l'emploi. Et parallèlement, donc, on a effectivement la sécurité sociale a bougé également. J'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps dans le 93 avec les médecins conseils. Et il y a réellement une volonté en fait de la caisse d'améliorer en fait ces systèmes de maintien dans l'emploi. Et donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait, c'est d'activer le mieux possible en fait la date de la visite de pré-reprise, puisqu'en fait, c'est elle qui va déterminer, grosso modo, qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Alors, je vous rappelle, vous êtes dans de grandes entreprises, ce n'est pas le tissu des entreprises habituelles, donc chez le pâtissier du coin, où ils sont trois, en comptant l'épouse du pâtissier, c'est sûr que le maintien dans l'emploi, le jour de la visite de reprise, c'est fini. Alors, je faisais une boutade avec les médecins conseils parce qu'ils ont la fâcheuse habitude de nous renvoyer les arrêts prolongés, ça veut dire 2 ans 3 quarts. Enfin, ils sont en fin d'indemnité journalière, donc on ne peut plus rien faire. Grosso modo, le 13 août. Alors, c'est sûr que le 13 août, c'est une inaptitude. On ne va rien pouvoir faire. On va avoir même du mal à faire les deux visites et l'étude de poste parce que tout est fermé. Quoi. Bon. Donc, on est dans des situations absolument impossibles, alors que tout le monde sait que si on s'y prenait d'avance, on pourrait peut-être trouver un certain nombre de solutions. Pas toujours, mais sûrement mieux que ce que l'on fait actuellement. Donc, il y a un frémissement de l'État sur ce sujet. Alors, on va passer rapidement. Voilà, les seniors.
Les seniors. Autre thème très, très médiatisé. Il y a une volonté des pouvoirs publics de maintenir les seniors au travail. Donc, il va falloir que les services RH se mobilisent sur un certain nombre de points importants pour le maintien au travail des seniors, et notamment, bon, outre la gestion des âges, tout le diagnostic et le pronostic qu'on peut faire en entreprise, la formation professionnelle. Et ça, je voulais vous en parler. Mais il y a des outils très, très importants à la fois pour ce qui est de l'adaptation des travailleurs handicapés, mais aussi l'adaptation des travailleurs âgés au poste de travail. La formation est un outil très important. Et puis, je voulais vous dire, parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, une des missions des services RH, à mon sens, c'est de vérifier l'application des mesures collectives. L'application à titre individuel des mesures de prévoyance collective ou des mesures collectives, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez un regard très théorique, souvent, sur l'application des textes en entreprise et sur le terrain, surtout quand les agents sont délocalisés. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous regardiez ce qui se passe concrètement pour vos salariés en dehors des projets collectifs que vous avez mis en place. Voilà. Donc, on peut parler des seniors, mais je crois qu'on n'a plus le temps.
Nous avons quelques contraintes parce que, après tout s'éteint.
Mais bien
sûr. Normalement, il y a un pot qui est prévu. Voilà. C'est pour ça que d'habitude, c'est 8h moins le quart, il faut arrêter, de façon à avoir une bonne demi-heure pour prendre un verre. Et là, alors, je crois que par contre, il avait été prévu encore une intervention.
5 minutes. 5 minutes,
il va savoir. Si on refaire un replay, il faudra refaire une autre. Oui, il aurait fallu deux.
Light. Ouais, je sais.